Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 25.
D'accord.
Vous ne suivez donc jamais rien. Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues, et ainsi que les plateformes. Ce soir, nous parlerons Esprit de famille et fratrie recomposée avec Je te promets sur TF1, Justice à double tranchant et Dilemme moral dans Your Honor sur Canal+, et enfin Monde parallèle et Mémoire de sitcom avec Vendavision sur Disney+.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, donc, ceux et celles dont la mémoire, l'attention est un tout petit peu versatile, on va dire. Ava Kaen de French Mania.
Bonsoir. Salut Xavier, salut à toutes et à tous.
Isabelle Danel de Bandapart.fr.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Ainsi que Benoît Lagarde, bien sûr, du 5-7 et de Mathilde Munoz, et que l'on peut voir également sur Télé Matin. Un petit peu de courrier. Alors, nous avons encensé En Thérapie, qui passe actuellement sur Arte, qui est un immense carton. Je crois qu'ils en sont à plus de 8 millions de vues entre le site internet et la diffusion télé. Très globalement et très majoritairement, l'opinion a été favorable, oui. Y compris ici même dans cette émission. Néanmoins, quelques auditeurs ne partagent pas cet enthousiasme, dont Daniel Montalini, qui nous écrit « Bonjour à tous, venant d'écouter votre émission de la semaine dernière. J'ai entendu votre enthousiasme pour la série En Thérapie et j'avoue, ne pas le partager. Ah. Il a le droit. Hein.
Oui.
Alors, je ne vais pas citer tout le courrier qui est un petit peu long. Cette série dont je n'ai vu que les 10 premiers épisodes, je les ai trouvés assez ennuyants. Tous les patients sont agressifs avec le psychanalyste dès les 2 premiers épisodes et cela donne une impression très artificielle et au final assez répétitive et ennuyeuse. C'est vrai qu'on a lu de temps en temps effectivement ce petit reproche dans la presse. Une série dont je ne regarderai évidemment pas les 35 épisodes. Cette opinion exprimée, je vous remercie pour l'amusante confrontation des points de vue de votre émission. Alors restez à l'antenne parce que je crois qu'aujourd'hui justement dans le registre confrontation, on va être gâté. Nous avons un courrier de papa. Vous savez, papa nous donne de temps en temps des petits conseils. Alors il aimerait que nous parlions de Resident Alien. En effet, après les 3 premiers épisodes, je suis partagé, reprenant les propos de Marianne Lévy à la voix si douce et si cassante. J'ai l'impression qu'on a une première couche de maquillage à la Alf, avec de bonnes technologies numériques d'aujourd'hui. On saupoudre en deuxième couche d'un brin d'enquête policière. Enfin, une troisième et dernière couche, ça fait beaucoup de maquillage, non, nous demande-t-il. Très les envahisseurs avec le petit garçon dans le rôle de David Vincent et deux méchants chasseurs d'OVNI qui, en fait, 3 petits points. Non, je ne divulguerai rien. Ben, ça tombe bien, parce qu'effectivement, sorti du contexte, je ne suis pas sûr que nos éditeurs qui n'ont pas encore vu la série aient compris tout à fait les enjeux de celle-ci. Néanmoins, cher papa, le 6 mars, justement, je vous donne rendez-vous pour un débat sur cette série qu'on a commencé un tout petit peu à regarder effectivement et qui est assez plaisante. Benoît.
Et si on répète ce qu'il a écrit, on lui doit des droits d'auteur à papa.
J'essaierai pour une fois de faire un texte un peu original. Vous êtes prêts pour le premier débat, je te promets, sur TF1 depuis le 1er février, tous les lundis soirs.
Oui.
Alors c'est un carton plein pour la première chaîne, il faut quand même dire les choses, qui avec ce remake de la série américaine This Is Us dépasse depuis le début de sa diffusion les 4 millions de téléspectateurs, voire même une pointe à 5 millions pour les 2 premiers épisodes. Une transposition qui, comme dans l'original, raconte le destin de 3 personnes nées, alors c'est la spécificité française, le 10 mai 1980, c'est-à-dire le jour de l'élection de François Mitterrand et de l'arrivée de la gauche au pouvoir, 3 personnes unies entre elles par un lien très fort. Au cas où vous n'auriez jamais vu la série originale, je tairai le coup de théâtre sur lequel s'achève le tout premier épisode d'un soap lacrymal qui s'interroge sur ce qui constitue une famille et sur le fait que celle-ci soit édifiée ou non sur les liens du sang.
J'ai toujours voulu le meilleur pour mes enfants. Tous ensemble, heureux, en bonne santé.
J'ai retrouvé mon père biologique.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je le ramène à la maison.
Je sais pas pourquoi je fais ça.
Nos enfants, ils sont géniaux.
Bon, on vient à l'aventure!
Comment j'ai fait pour en arriver là?
Maud, t'es la personne la plus importante de ma vie.
Je suis là si t'as besoin.
Ah, j'ai toujours été là.
Faut qu'on se sépare en fait, faut qu'on suive chacun sa route.
Tu t'es pris pour tonton David ou quoi?
Quoi qu'il arrive, on reste toujours tous ensemble.
Je te promets, d'accord?
Un remake on ne peut plus fidèle, hein, l'exception du personnage de Michael qui n'est plus acteur de sitcom mais joueur de foot, ce qui permet pour TF1 une bonne percée de placement de produits, d'enseignes d'électroménager ou encore une plateforme de livraison à domicile, plus un hommage appuyé à l'OM. Mais que l'on se rassure, cette émancipation, avec quelques guillemets, ne dure qu'un temps très bref. Et dès le deuxième épisode, on raccorde le destin de ce personnage à celui d'origine de This Is Us. Donc pour la prise de risque, on passera. Je te promets, une série créée par Brigitte Bémol et Julien Simonet, mise en scène entre autres par Arnaud Célignac, et qui est interprétée, alors là, c'est le point fort de la série, excellent casting, Camille Lou, Hugo Becker, Marie-Lou Berry, Guillaume Labbé, Narcisse Mam et Natacha Lininger. J'espère que je n'écorche pas le nom de cette excellente comédienne. Une série qui clive les téléspectateurs avec autant de commentaires laudateurs que de critiques acerbes sur le site Allociné. C'est également le cas avec La Presse. Télérama défend ce soap attachant alors que Les Inrecuptibles parlent d'un décalque qui distille une impression de déjà-vu dérangeante. On parle de famille, on parle de This Is Us, donc obligatoirement on cède en premier la parole à Benoît. Qu'avez-vous pensé de ce remake franchouillard français, pardon.
C'est pas bien ça, alors vraiment. On peut continuer dans les jeux de mots. C'est une franche reprise. Voilà. Alors moi je suis très partagé en réalité. C'est vrai que quand on connaît par cœur la série américaine, et je m'arrêterai là, c'est compliqué de suivre cette série parce qu'on connaît tous les rebondissements. Et vu que dans ce soap familial, enfin qui est plus dans la version américaine, plus qu'un soap, c'est en fait une chronique familiale, les effets de twist sont surprenants quand on les découvre pour la première fois. Quand on connaît ça, du coup là il y a moins de surprises. Alors j'essaie de me mettre dans la peau du téléspectateur qui n'a jamais vu This Is Us. Et si c'est le cas, alors il va être agréablement surpris par cette version française qui fonctionne au niveau du choix de casting, vous l'avez dit, de l'humour qui fonctionne très bien, du choix de la bande-son qui fait référence à une culture commune qui est la chanson populaire en langue française. Et ça, c'est suffisamment rare dans les séries françaises pour le signaler, parce que c'est souvent des bandes-son créées spécialement pour la série. Alors là, il y a des vraies belles chansons qui sont mises à l'honneur, donc ça, c'est réussi. Le foot, moi je trouve que c'est une très bonne idée aussi parce que c'est rare qu'à la télévision française, on s'intéresse au foot, qu'on fasse du foot un personnage, parce que souvent les directeurs de chaîne disent « Ah non, le foot, c'est pour le public masculin, les séries, c'est pour le public féminin, donc on mélange pas tout, on leur met pas du foot. » Bref, donc voilà. Après, moi, le problème,
non, mais c'est que l'idée soit bonne et pertinente, voilà, je veux bien l'admettre. Il faudrait peut-être en faire quelque chose en mettant un plan dramaturgique.
Ensuite, il y a des petits soucis.
Il répond pas à ma question.
Non, mais il y a des petits soucis. J'y viens, c'est que je trouve que la mise en scène est très limitée, très simple, trop simple, alors que la série américaine a une mise en scène qui vient soutenir le mélo et la chronique. Et là, c'est moins le cas, et c'est dommage parce que les comédiens sont parfaits, donc c'est dommage que vraiment la mise en scène soit pas au niveau des comédiens. Voilà, ça c'est un vrai problème. Et ensuite, je trouve que tout ça, qu'il y a un contexte politique qui est là, mais qu'on n'en dit pas grand-chose finalement de ce contexte politique. Il est juste dans le décor et c'est dommage.
Arakaen, qu'avez-vous pensé de Je te promets sur TF1?
Puisque la semaine dernière, Xavier, vous avez dit que j'étais un cœur pur, je vais dire toute la vérité à celles et ceux qui nous écoutent. Je vous ai envoyé un texto après les 15 premières minutes de mon visionnage du premier épisode et je vous ai écrit, je suis en PLS, traduction en position latérale de sécurité, tellement j'étais sidérée parce que j'étais en train de regarder. Alors, ils se sont attaqués à un monument, c'est vrai. Je ne vais pas m'étaler sur This Is Us, mais c'est vrai que c'est une série qui ne paye pas de mine et qui, dès le premier épisode, nous captivait. C'est bouleversant, et là, c'est pas bouleversant, malheureusement, c'est embarrassant, comme cette vanne là sur Tonton David qu'on a entendu.
Mais moi, ça me fait
dans
rire.
Dans le générique, dans l'extrait, moi, ça me fait pas
vous
rire du tout.
Vous pourrez défendre la série après, Isabelle.
Voilà, il y a une réplique qui dit « Le problème, c'est que tu es vide. » C'est l'un des personnages qui le dit au personnage de David, et c'est exactement ce que je pense de cette adaptation, malheureusement. Elle est vide, les dialogues sont sans saveur, je crois pas du tout, moi, à cette famille française, l'alchimie ne prend pas entre les acteurs, toutes les émotions me paraissent complètement simulées. Quant à la recontextualisation, je la trouve vraiment maigre, en fait. C'est un plan sur une télé qui annonce effectivement l'élection de Mitterrand, et puis l'année, quoi, 81, c'est Françoise Dolto citée au détour d'un dialogue hasardeux, c'est La Rochelle au lieu de Pittsburgh où ont grandi les Peters. Et ce titre, et ce titre, Je te promets, donc emprunté à Johnny Hallyday, qui désigne en fait tout de suite le mélo. Et moi, ce que je trouvais génial avec le titre This Is Us, c'est que c'était toute une promesse en fait, déjà le titre, parce que This Is Us, c'est une série puzzle, sur plusieurs temporalités et tout. Et là, malheureusement, ça manque de dimension dramatique, ça manque de dimension esthétique. Les personnages sont de mauvais décalque des originaux jusqu'aux vêtements qu'ils portent. Moi, je trouve que les feuilletons quotidiens de la chaîne TF1 ont plus de capital sympathie que cette série. Donc voilà, je vais m'arrêter là et laisser la parole à Isabelle parce que j'ai un peu trop tiré sur l'ambulance.
Isabelle non. qui se retient quand même. Bah, de,
oui, moi je vous trouve sévère. Je dis pas que c'est la série du siècle. Je trouve que pour TF1, c'est quand même écrit et c'est quand même très très bien joué, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries de TF1, pardon pour les acteurs qui vont se sentir visés, je suis vraiment désolée, mais là je trouve que c'est vraiment, ça joue bien, c'est incarné, et du coup moi j'ai fonctionné dans la série populaire que c'est et que ça veut être. Je trouve que sur la France, on est d'accord, c'est pas très politisé, les années Mitterrand sont un peu passées à la trappe, mais néanmoins la couleur de ces années-là, moi je trouve qu'elle y est. Je trouve qu'on parle, les références de chansons dont a parlé Benoît, elles y sont, effectivement, ça va de Cabrel à France Gall, etc. Renaud, Mistral gagnant, enfin, voilà, c'est des chansons un peu doudou qu'on aime retrouver dans une série comme ça. Les références, ça va de Picsou à Pif Gadget, effectivement, tu disais Dolto, y a Goldorak, Les Visiteurs, enfin bon, voilà, on est dans du populaire, du grand public, et c'est pas un gros mot, bon sang, on peut aussi trouver que cette série a des qualités. Je suis d'accord que si on a vu la série originale, ça a pas beaucoup de sens, mais pour découvrir une série avec des acteurs qu'on aime et qui sont bien, je trouve que ça fait la farce. Je suis d'accord, c'est une petite mise en scène. Mais
c'est
néanmoins, il y a moins.
C'est sous prétexte que c'est populaire qu'on ne soigne pas la mise en scène.
Mais
Arnaud
Signac
n'est pas un mauvais metteur en
scène. Je trouve qu'il y a une certaine rapidité, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup moins d'épisodes que dans la série originelle pour cette première saison, alors qu'elle s'arrête exactement au même endroit. Et là, il y a donc 12 épisodes. Du coup, ça va un peu vite. Et même si c'est pas très, très beau, la lumière est pas terrible, je suis d'accord. Je veux dire, par ailleurs, ça va suffisamment vite pour que dans l'élan des personnages, dans l'énergie des personnages, et ils en ont, je trouve qu'ils sont vraiment tous très... on peut s'identifier à plusieurs d'entre eux, et il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là, de l'empathie, de la sympathie. Voilà.
Donc, très bien.
Si seulement j'avais été en empathie moi aussi.
Et en plus, ils ont eu quand même le bon goût de ne pas surmaquiller les acteurs plus âgés, mais de prendre d'autres acteurs pour jouer à un moment donné. Et ben non, parce que c'était Andive Brézé là, de nouveau One More Time.
Allez au bout.
Bon, en tout cas, voilà, nous venons de parler de Je te promets sur TF1 depuis le 1er février, et c'est donc un gros succès tous les lundis soirs sur la première chaîne.
Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. J'te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te trop fait. Si les mots sont usés comme écrits à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces.
Je te promets par Johnny Hallyday, ce titre désormais classé comme la chanson préférée des Français. Selon un sondage Elab, sert de générique à la série dont nous venons de parler, sortie en 1987, composée par Jean-Jacques Goldman. Le titre est extrait de l'album Gang. Pour la petite histoire, la chanson fut écrite pour Adeline Blondiot, la star de la série
soleil.
Préférée d'Ava Cahen, voilà. Sous le soleil, vous êtes sorti du placard tout seul, je n'ai même pas eu besoin de vous en extirper, voilà, sous le soleil. Adeline Blondiot, bien sûr, Bernard Montiel, enfin un casting de dingue, j'ai envie de dire. Je te promets, Johnny Hallyday, qu'on continue de percevoir comme ça derrière ma voix.
France Inter. Série.
Petit conseil littéraire pour accompagner, je te promets, je vous recommande la lecture, la découverte de la maison des Hollandais de Anne Patchett aux éditions Actes Sud dans l'excellente traduction, je tiens à le souligner, d'Hélène Frappa. Danny Conroy, le narrateur, a grandi avec sa sœur aînée Maeve. Tous les deux se souviennent, certes de moins en moins, de leur mère partie un jour sans se retourner sur ses enfants, quittant cette somptueuse demeure connue dans le quartier sous le nom de la maison des Hollandais. Ensemble, ils ont vu la nouvelle épouse de leur père débarquer avec ses deux filles. Ensemble, ils ont vu cette marâtre les déposséder de leur héritage, lançant les deux jeunes adultes sur la route d'un destin souvent chaotique, mais toujours porté par leur affection mutuelle. Un amour frère-sœur comme une dépendance, une solidarité qui leur permet de lutter contre les nombreux accidents de parcours. Débutant comme un conte de fées initiatique avec ce château dont sont exclus nos deux héros, le roman d'Anne Patchett parle avec infiniment de délicatesse et d'intelligence de cet amour unique, fragile et exclusif qui unit le frère et la sœur Dani et Maeve. Comme un phare qui guide leurs pas dans ce grand monde et dans la bourrasque de leur existence, un point d'ancrage affectif qui est aussi celui de ce roman qui ose avec gourmandise le romanesque avec en toile de fond l'Amérique des années 50 et 70. Une saga de plusieurs décennies où la tragédie est toujours contrebalancée par une écriture légère et alerte, une plume qui fouille le passé pour cautériser le présent et révèle peu à peu les secrets enfouis de cette maison des Hollandais, pour enfin peut-être affronter le poids de l'héritage familial et exorciser les traumas de l'enfance. La maison des Hollandais de Anne Patchett aux éditions Actes Sud. Deuxième débat, Your Honor, une série américaine de 10 épisodes diffusée sur Canal+, depuis le 28 janvier. J'y arrive, est disponible sur MyCanal. Alors, je vais essayer d'en dire le moins possible, tout en tentant de vous donner envie de vous plonger dans ce thriller anxiogène où il est question de versatilité de la justice, de vengeance, de sacrifice paternel et de ce dont on est capable pour tenter de sauver son fils d'un désastre inéluctable. Juge intègre et franchement de gauche au sein d'une machine judiciaire américaine à l'éthique versatile, Michael Desiato, veuve depuis quelque temps, voit son équilibre de vie fracassé le jour où son fils Adam renverse et laisse pour mort sur le bord de la route un jeune adolescent qui étrennait sa nouvelle moto. Pris de panique, Adam fuit le lieu de l'accident, la victime décède, le père d'Adam tente de faire disparaître toutes les traces du crime et échafaude dans la précipitation une histoire de voiture volée pour exonérer son fils. Mais évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu et Michael va se retrouver au cœur d'un engrenage viral et fatal, d'autant plus fatal que la victime n'est autre que le fils d'un parrain de la pègre locale, parrain dont l'épouse et mère, ivre de vengeance, va tout mettre en œuvre, y compris le pire, pour se faire justice. Une série policière, mais pas seulement, qui explore l'affection culpabilisatrice, fusionnelle et souvent toxique d'un père pour son fils.
J'ai heurté quelqu'un. Et j'ai tué un homme, papa.
Oui, je sais. Le garçon que tu as renversé ce matin, c'est le fils de la plus dangereuse famille de mafieux de toute l'histoire de cette ville. Personne ne doit rien savoir. Jamais.
Qui que vous soyez, et où que vous soyez, vous pouvez être sûr on vous retrouvera.
Your Honor, une série créée par Peter Moffat pour Showtime d'après une série originale israélienne. Pour mémoire, Peter Moffat, c'est un scénariste britannique aguerri ayant signé entre autres les scripts de Silk et de Criminal Justice avec dans les rôles principaux Bryan Cranston, inoubliable vedette de Breaking Bad, à ses côtés dans le rôle de son fils Adam Hunter Doohan que l'on a vu dans la série Truth Be Told, oui ce sera un petit peu mieux. Sans oublier Hope Davis, impressionnante dans le rôle d'une mère vengeresse et machiavélique, sortie tout droit d'une tragédie antique et que l'on a vu récemment dans le très mauvais film Joker. Ava, oui j'en profite
bon
toujours.
Film,
mais je dis comme ça, je vais encore me faire assassiner sur les réseaux sociaux. Ava Kahn, à propos de Your Honor.
Eh ben, c'est une série à suspense qui en apparence est relativement classique, mais qui en réalité soulève épisode après épisode des questions morales très complexes. Oh. Et c'est un peu comme dans la série Breaking Bad hein, qui a élevé, donc Bryan Cranston vous le disiez au rang de divinité télé. On découvre qu'un type décent pour X raisons peut commettre le pire. Et le pire, c'est que nous, spectateurs, on s'inquiète de son sort au détriment de celui des innocents dont il peut parfois mettre la vie en péril pour sauver ses fesses ou celle de sa famille. Donc voilà, c'est toute l'ambivalence en fait de cette série et du raisonnement qu'elle convoque chez le spectateur. Et le personnage de l'avocate joué par Carmen Ejogo est très intéressant et éloquent au regard de tout ça. Donc je ne crois pas par exemple que ce soit anodin si la série si cette adaptation se déroule en Louisiane où la criminalité est sévère, où les communautés sont divisées, où la lutte des classes est très vive. Donc voilà, je trouve que la série montre ses aspérités, ses inégalités, et tout le sous-texte social et la réflexion sur la nature des privilèges m'intéresse plutôt. Au-delà de ça, ce qui fait le sel de la série, c'est évidemment Bryan Cranston. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au début du premier épisode, on ne voit pas son visage. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais on le voit de dos, encapuchonné, en train de faire son jogging. Et comme souvent dans les séries où on l'emploie, on le voit courir hein, au début, donc c'est marrant. Et quelques minutes après, c'est sous la douche hein, qu'on le retrouve. Et c'est comme s'il effaçait en fait les traces des personnages qui lui collent encore à la peau pour mieux nous préparer à sa performance sobre, impeccable. Donc voilà, Cranston est absolument fascinant à regarder de bout en bout. Et c'est encore un autre des atouts de la série, vous l'avez dit Xavier, c'est qu'elle confronte deux pères de famille qui n'occupent pas n'importe quelle fonction sociale. Hein. Ici, c'est le juge versus le malfrat. Et Jimmy Baxter, c'est un mafieux qu'on croirait tout droit sorti des Affranchis de Scorsese. Donc voilà, d'avoir mis Michael Stuhlbarg, héros de Serious Man et de Call Me By Your Name, c'était le papa de Timothée Chalamet, face à Cranston, je trouve que c'est une grande idée. Dans le genre, c'est vachement mieux que The Undoing et Defending Jacob dont on avait parlé ici. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus riche. Voilà.
Je suis assez d'accord, même s'il y a un moment où l'intrigue Rubik's Cube, où il faut absolument utiliser tous les éléments et les ramener incessamment
parfois
comme ça, l'intérieur de l'intrigue est parfois un peu exagéré. Benoît.
Alors, je suis assez d'accord avec ce que Ava vient de dire, avec quelques bémols. Alors déjà, par rapport à Bryan Cranston, je trouve que c'est très bien ce que tu dis sur la façon dont il a de s'enlever les costumes de ses précédents rôles, parce que, en regardant la bande-annonce avec mon fils, il me dit « Oh, mais c'est le comédien de Malcolm, parce qu'il avait reconnu la VF.
» Ouais.
Donc, voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a Malcolm, il y a Breaking Bad, et je trouve que ce qui est très intéressant d'ailleurs dans ce personnage, c'est que contrairement à Breaking Bad, on ne sait pas dans quelle direction va aller ce personnage. Mmh. Alors que dans Breaking Bad, assez vite, on comprend qu'on va avoir une descente aux enfers. Moi, je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment... Du moins au début,
c'est
il va
un
se
peu écrit quand même, pardon.
Non, je trouve pas. Oh. Je trouve qu'au début, on sait pas trop. On voit bien qu'il va prendre la défense de son fils, mais par quel moyen il va utiliser ? Est-ce qu'il va aller ?
Quel prix ça coûte ?
Oui, quel prix ça coûte ? Est-ce qu'il va s'enferrer dans l'illégalité, etc., etc. Ça, au début, on le voit pas. On le voit venir après. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est très bien mis en scène par des réalisateurs qui savent mettre en avant effectivement la Nouvelle-Orléans et le genre. Clark Johnson, qui avait travaillé notamment sur The Shield. Par exemple, ou Edward Berger qui a travaillé notamment sur Dutchland 83. Mmh. Donc voilà, c'est des metteurs en scène qui savent mettre en avant ce comédien. Après voilà, moi j'ai été un peu agacé par l'éternelle histoire avec le mafieux local qui, moi je trouve qu'on en a beaucoup vu et ça m'a moins intéressé malheureusement.
Laissons un peu de temps pour qu'Isabelle Danel puisse vous répondre parce qu'elle n'a pas l'air d'accord si j'en juge par les hochements de tête.
Vous allez me dire
le langage corporel. Isabelle Danel.
Vous allez me dire que je défends une série de TF1 et que je critique le révéré Peter Moffat et le révéré Bryan Cranston et tout ça. Et
nous
donc oui,
bah,
j'attendais énormément de cette série. parce qu'effectivement, c'est absolument pas dans la même ambition et dans le même genre de série. Et je suis extrêmement déçue, et dès le début. C'est-à-dire que je trouve d'une gentillesse avec tout ça, parce qu'il y a des trous de scénario, c'est des cratères. Il y a quand même, je veux dire, au début, une scène au commissariat où, au départ, le juge a décidé d'emmener son fils parce que, quand même, il peut pas, il est juge, etc. Et il voit un couple en larmes dans le commissariat. Il en déduit que, donc il reconnaît le couple, c'est les mafieux. Il en déduit donc que son fils a tué le fils du caïd de la mafia. Mais comment c'est possible? Il n'y a qu'un meurtre par jour à la Nouvelle-Orléans? Ça m'étonnerait beaucoup.
Il a peut-être eu accès au dossier.
Non, pas du tout. Il arrive, il les reconnaît dans le commissariat. Et tout est comme ça. Et donc, ce sont des gens qui savent écrire, je suis d'accord. Mais c'est, on dit, moi, j'entends la réunion des scénaristes qui disent, alors, on va faire ça. Et puis là, alors, on va faire ça. Et alors, comme ça, on va pouvoir complètement détourner le truc, etc. Et donc, moi, je suis désolée, j'achète rien. Je ne marche sur rien. Et j'ai un vrai problème, et je me dis, bah, peut-être que finalement, j'avais déjà un problème avec Breaking Bad. Et que cette série-là, c'est de nouveau Breaking Bad, mais on a changé, on est à la Nouvelle-Orléans, on est avec un juge, etc. Et ça me pose un vrai, vrai problème. C'est-à-dire que la fin justifie les moyens, donc on y va. Et je pense que c'est une idée de scénariste, mais que c'est rigoureusement impossible que ce personnage-là, tel qu'il nous est montré,
ouais.
Je ne parle pas dans la vraie vie, je parle de la série. C'est rigoureusement impossible qu'il aille si loin, qu'il accepte des choses pareilles. C'est rigoureusement impossible.
C'est un peu le principe de la tragédie classique et antique.
Mais ça met à l'épreuve la morale, c'est ça qui est vachement intéressant.
Mais pour moi, c'est pas possible. Il y a un moment où c'est pas possible. Et du coup, tout devient caricatural. Les mafieux, contrairement à vous, je les trouve totalement ratés. Je vénère Hope Davis, je la trouve mauvaise comme c'est pas permis. Je trouve que par contre, dans les jeunes, il y a vraiment quelque chose. Et notamment la fille du mafieux, qui est jouée par Lily Kay, qui est vraiment très, très intéressante. Pour moi, c'est la révélation de la série. Donc ça m'a un peu sauvé la série. Et il y a le fils aussi qui est tout tremblotant, Hunter Duan, il est tout tremblotant, on jurerait qu'il rougit par moments, c'est un frêle coquelicot, enfin bon voilà. Donc il y a des choses extrêmement jolies, mais néanmoins je trouve vraiment que c'est pas possible de suivre un personnage pareil. Il y a quelque chose qui me dérange profondément.
Bon, on va chacun se faire son opinion de toute façon. Je sais que de l'autre côté de la vitre, en régie, notre technicien ce soir a regardé également la série de son côté, et il m'a fait des signes avec les pouces signifiant qu'il est un petit peu partagé. Voilà, donc à vous de vous faire votre opinion à propos de Your Honor sur Canal+, et également disponible sur MyCanal.
It's over. Wait till it's over. Break this down.
Nobody's Fault, ça n'est de la faute de personne, par Benny Sings, un cadra aux allures de jeune adolescent, cheveux en bataille, petite poignée d'amour et nonchalance chevillée au corps qui compose autour de cette histoire d'amour en berne, une pop entraînante dès les premières mesures. Oui, je me suis un peu reconnu et identifié. Encore un bel hommage aux sonorités des années 80. Oui, l'orgue, bon tant pis, on l'a tellement aimé, secondé par une voix élégante et très joliment acidulée.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment de l'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité racontée ou évoquée par une série, un épisode ou un personnage culte. Et aujourd'hui, vous revenez, cher Benoît, sur l'affaire polémique de la semaine autour de Joss Whedon, le créateur d'une de nos séries préférées, Buffy contre les vampires. Racontez-nous cela.
Oui, c'est un véritable choc pour les fans de Buffy et Angel, qui depuis mercredi dernier découvrent que le créateur de la série, donc Joss Whedon, était loin d'être un ange. C'est la comédienne Charisma Carpenter, qui est l'interprète de Cordelia, vue notamment dans les trois premières années de Buffy avant de devenir le personnage féminin principal et d'Angel aux côtés de David Boreanaz durant 4 saisons. Donc c'est elle qui a eu le courage de dénoncer publiquement le comportement de Joss Whedon. Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler du comportement dit toxique du créateur. Le comédien Ray Fisher avait déjà mentionné que sur le tournage du film Justice League, Whedon avait-il dit, une attitude peu professionnelle. Mais là, les déclarations de Charisma Carpenter prennent un tournant très symbolique du fait de la nature des séries de Whedon. Et c'est via Twitter que la comédienne Charisma Carpenter a donc eu le courage de prendre la parole. Alors un message qu'Ava a gentiment accepté de lire pour nous.
Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises, ce qui n'a fait qu'intensifier mon anxiété en tant qu'actrice, m'a affaiblie et éloignée de mes collègues. Ces incidents perturbants m'ont déclenché un mal physique chronique dont je souffre encore aujourd'hui. Joss est connu pour être cruel. Il crée des environnements de travail toxiques et hostiles depuis le début de sa carrière. Je le sais parce que j'en ai fait l'expérience de nombreuses fois. Comme ces menaces passives-agressives continuent pour me virer, ce qui peut être dévastateur pour l'estime de soi en tant que jeune actrice. Il me traitait de grosse devant nos collègues alors que j'étais enceinte de 4 mois. Il était méchant et agressif, dénigrait ouvertement les autres, choisissait ses petits préférés et dressait les gens les uns contre les autres pour qu'ils obtiennent son approbation.
Et depuis mercredi, la comédienne, donc Charisma Carpenter, reçoit de nombreux soutiens.
Effectivement, comme la scénariste Marty Noxon, qui a travaillé sur Buffy, ou plusieurs membres du casting, essentiellement des femmes, mais soyons honnêtes. Pour l'heure, Anthony Ed Stewart, malgré tout, de Buffy et G, August Richards d'Angel, ont marqué eux aussi, en tant qu'hommes, leur soutien à Charisma Carpenter. Alors, ces accusations font donc l'effet d'un électrochoc auprès des fans de Buffy, tant cette série a accompagné et tendu un miroir positif pour toute une génération d'ados et jeunes adultes. Un sentiment vraiment d'incompréhension. Certaines, comme la journaliste Marion Alité de Combini, pour qui Buffy est une série qui l'a forgée en tant que femme et journaliste, elle questionne d'ailleurs cette affaire avec justesse dans un de ses articles et de ses tweets. Elle écrit « C'est quel genre de trahison quand tu crées une série qui dénonce le sexisme, les harceleurs, les brutes et que tu en es un ?» Et elle ajoute « Je suis effondrée de penser que les femmes ont été traumatisées pendant la création d'une série qui célèbre l'empowerment. Ça a dû être très dur pour les actrices de parler, en plus de leur trauma, connaissant la portée symbolique de Buffy. » Et de fait, les réactions arrivent les unes après les autres. Sarah Michelle Gellar, l'interprète de Buffy sur Instagram, est venue en soutien à Charisma Carpenter. Elle a écrit « Bien que je sois fière que mon nom soit associé à celui de Buffy Summers, je ne veux plus être constamment lié à celui de Joss Whedon. Je me tiens aux côtés de toutes les personnes victimes d'abus et je suis fier qu'elles s'expriment. » Ou encore Michelle Trachtenberg, qui jouait Dawn, vous savez, la sœur de Buffy, et qui sur Instagram a également déclaré « Cela doit se savoir en tant qu'ado. Son comportement n'était pas approprié, vraiment pas approprié. Donc maintenant, les gens doivent savoir ce que Joss a fait. » Et j'en reviens donc à la question très juste posée par Marion Olité. C'est quel genre de trahison quand, par exemple, Whedon écrit un épisode musical de Buffy où un démon Sweet harcèle entre autres la petite sœur de Buffy dans une chanson et que Whedon serait, semble-t-il, ce démon-là. Écoutez.
« Car je sais ce que tu veux, toi. » Je sais, ouais, ce que tu veux, toi.
Mais alors, vous êtes un gentil démon qui répand la joie autour de lui?
Tu as fait des ravages en grand nombre. Donc après notre petite scène, nous partirons dans mon royaume de l'ombre et tu seras ma reine. Car je sais ce que tu veux.
Non, je crois, toi et moi, ça ne peut pas être
je
génial.
Je vais t'épouser. bouche, sur un bon pied.
Non, vraiment, elle m'attend. Je ne veux pas qu'elle soit nerveuse.
Je t'ai de l'huile sur le feu, ça me connaît. J'ai offert un héros, c'est plus joli jouer.
J'ai pas peur, mais c'est l'heure, c'est ma soeur, c'est la tueuse.
La tueuse ?
C'est ça.
Et moi, j'ai une petite pensée aux fans de Buffy aujourd'hui.
Ouais. Hélas, oui, ça fait effectivement froid dans le dos. Merci pour cet excellent effet miroir et ce choix très pertinent, hélas, d'un extrait de la comédie musicale de Buffy. Benoît Lagan, notre effet miroir, on peut le réécouter en podcast ou dans l'intégralité de l'émission, puisqu'elle sera rediffusée dans quelques heures, à 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Vous êtes bien dans une heure en série sur France Inter avec ce soir Ava Cahen, Isabelle Danel et Benoît Lagan. Troisième et dernier débat pour ce soir. VandaVision, une série américaine de 9 épisodes format sitcom sur Disney Plus depuis le 15 janvier. Alors si nous avons quelque peu tardé à en parler, c'est parce que nous préférions avoir regardé au moins 5 ou 6 épisodes avant de nous prononcer. Il valait mieux d'ailleurs. Wanda Maximoff et Vision sont deux personnages récurrents des films Marvel. Vous les avez vus entre autres dans Captain America, Avengers, l'ère d'Ultron, Infinity War, Endgame, on passe tous les passés. Hein. La première est une sorcière pouvant manipuler les probabilités. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et le second est un synthézoïde, autrement dit, un robot, un être robotique de synthèse. Bon, ça, je vois, on a Benoît Lagan avec nous, donc c'est un petit peu plus facile à imaginer. À la suite d'événements que je me garderai bien de révéler par respect pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les films que j'ai cités allègrement, les voici devenus dans cette série les héros d'un univers faussement tranquille qui emprunte largement à la mémoire des grandes sitcoms américaines, parmi lesquelles I Love You See ou encore Ma sorcière bien-aimée, un monde de façon propre, tiré à quatre épingles, mais qui pourrait n'être qu'à l'heure et dissimuler une réalité plus sombre que les rires enregistrés qui ponctuent les situations comiques. À noter d'ailleurs que cet hommage au genre sitcom a donné lieu à un premier épisode entièrement tourné à l'ancienne, en public, sans rire enregistré, mais avec ceux vraiment du public qui devait être très bien payé.
Wanda et Vision, nous deux on fait vraiment la paire.
On est chez nous maintenant et je veux qu'on s'intègre.
Oh, ce sera vraiment phénoménal.
D'où venez-vous tous les deux? Depuis quand êtes-vous mariés? Et pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfants? Oh, notre histoire.
Je crois que ce que ma femme veut dire, c'est que nous venons de...
D'où venez-vous? Depuis quand êtes-vous mariés? Et pourquoi?
Oh, Arthur, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Alors c'est bien réel. Je suis morte ?
Non. Pourquoi croyez-vous ça ?
Parce que vous l'êtes.
VandaVision, une série créée par Jacques Schaeffer, une scénariste ayant travaillé sur plusieurs films Marvel, dont Black Widow, qui sortira peut-être un jour sur les écrans dans les salles qui auront peut-être réouvert. Elisabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leur rôle dans ce programme de méta-télévision. Alors, côté de la presse, Télérama parle d'une série gagnée par le dérèglement et l'absurde, très réussie pour le Parisien, légère, euphorisante et aromatisée malgré quelques parfums anxiogènes. Ça, c'est Le Monde qui se prononce sur VandaVision. Et c'est Isabelle qui va ouvrir le débat, mais je ne crois pas qu'elle ouvrira les hostilités.
Et non, parce que moi j'aime beaucoup ça. Alors au début je me suis dit, oh là là, je ne suis pas experte en Marvelerie, je ne suis pas avengerologue, comment je vais faire? Parce que ça ressemble à quelque chose qui est destiné aux fans absolus. Alors, on se sent un peu chez soi, l'hommage aux séries de notre enfance, en tout cas de la mienne, parce que j'en connais ici qui ont grandi avec Friends, mais moi j'ai grandi avec Ma sorcière bien-aimée, donc...
Mais vous n'êtes pas toute seule, voilà, chère Isabelle.
Je sais. Donc je me suis sentie chez moi. Et donc, effectivement, ce qui est très très beau et très amusant, c'est que ça se grippe assez vite quand même. Le premier épisode est presque intégralement un hommage, mais dès le deuxième épisode, la couleur rouge apparaît petit à petit, ça commence à se gripper, à changer.
Et effectivement, dans un univers en noir et blanc, on est encore dans la période noir et blanc.
Oui, pardon, on était en noir et blanc au tout départ. Et donc, voilà, il y a tout d'un coup des petits flashs qui arrivent, et même les plus rétifs, ou ceux qui ont la mémoire courte par rapport aux Avengers, peuvent comprendre, quoi. Je crois que ça fonctionne. Alors moi, il y a des choses qui, je pense, me sont passées au-dessus. Et puis tout d'un coup, il y a un toaster, parce qu'il y a des pubs comme dans les vrais programmes. Donc il y a un toaster qui s'appelle Stark. Et Stark, bah, c'est l'homme derrière la cuirasse d'Iron Man. Donc ça, voilà. Et ça devient extrêmement drôle parce qu'on est effectivement méta, on est sur plusieurs registres. Et tout ce qui, dans le quatrième épisode, mélange tout...
Il faut atteindre le quatrième épisode pour relancer la série, pour lui donner vraiment...
Ah, mais c'est même tournant. Avant, même c'est avant, j'aime beaucoup, mais tout ce qui arrive à la quatrième, au quatrième épisode permet là de donner son ampleur à la série qui après part vers autre chose. Et voilà, c'est très réussi, c'est très amusant. Je pense que même si on n'est pas Avengerologue, on peut aimer ça.
Ava.
Ben comme toi Isabelle, je ne suis pas du tout Avengerologue et j'ai trouvé ça très chouette Vendavision, parce que comme tu l'as dit, l'ambiance elle nous est familière. On déracine ici les super-héros de leur milieu d'origine, on les installe dans une charmante petite bourgade américaine comme on en a tant vu, comme tu disais, dans les feuilletons américains, et on bouge comme ça le curseur, moi ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. Donc voilà, c'est une curieuse série, hein, faut quand même le dire, parce qu'elle marie voilà ces codes de l'univers Marvel à ces codes de la sitcom des années 50 aux années 70, parce qu'on pense aussi à la vie de famille à d'autres moments un peu plus tard dans la série.
Tout à fait.
Donc voilà, il y a les rires enregistrés effectivement, il y a les acteurs qui font des clins d'œil aux spectateurs, voilà, comme si on était des complices. Donc voilà, c'est étonnant, on est en terrain connu, et en même temps, vous le disiez Xavier, le curseur bouge, on sent qu'il y a des bugs dans la matrice, quoi, des interférences, et ça passe par le montage, ça passe par le son, ça passe par la couleur, et aussi par les écrans, bien entendu, puisque voilà, VandaVision, c'est aussi de ça dont on parle, Benoît, compteur cathodique, ne me dira pas le contraire. Donc voilà, il y a tout un jeu de mise en abîme et tout un tas d'énigmes égrenées que je trouve très ludiques. Des personnages comme ça, tout droit sortis du chapeau d'un magicien. Donc voilà, je suis très séduite aussi par Elisabeth Olsen qui joue Wanda. C'est plutôt un personnage au second plan dans la saga Avengers. Et donc je suis contente que là, on lui réserve un sort différent. Elle est aussi pétillante que flippante. Elle est vraiment au centre. Paul Bettany qui joue Vision est complètement génial. Et un petit mot sur Catherine Hahn, la voisine pot de colle, qui est formidable et qui est une actrice d'une drôlerie monstre qu'on avait vue dans la délicieuse série Mrs. Fletcher. Donc voilà, c'est vraiment une petite pépite, un petit bonbon pop.
Benoît, il vous reste une poignée de secondes. Hein. J'en suis désolé pour parachever ce débat.
Juste, d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, pour moi, c'est vraiment sans doute la série qui m'a le plus enthousiasmé cette semaine. Et puis c'est presque politique, parce que c'est un très bel hommage d'une série de plateformes à la série de télévision. Et ça, je trouve que c'est très rare. Ensuite, c'est exactement, ça vient de démontrer quelque chose de très fort. C'est qu'une série, un univers de fiction, ça peut aider à vivre. Ça peut permettre de passer un cap important et sans rien dévoiler. En fait, on comprend assez vite que ces gens vivent dans ce monde de fiction parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'en fait, ils veulent se protéger d'un monde qui va mal. J'ai trouvé ça fabuleusement chouette. Par ailleurs, pour les amateurs d'Avengers qui voient les petits détails, et pour les amateurs de séries, les séries fil pur, ils y retrouveront, donc vous avez dit les séries, les sitcoms en question, mais aussi on voit du Quoi Neuf Docteur, on voit du Malcolm, et donc tout ça est vachement bien écrit dans un univers bien pensé. C'est vraiment la série qui nous démontre que la série de télévision doit pas disparaître. Et ça, je trouve que c'est, rien que pour ça, c'est merveilleux.
Très joli message de fin, cher Benoît. J'ai été un tout petit peu sévère, j'ai un peu égratigné. Oui. Je trouve quand même que trois épisodes qui ne servent pas à grand chose au début sur une série qui en compte neuf.
Ils servent à quelque chose.
J'aurais pu faire plus court et plus condensé, mais vous n'avez pas la parole, c'est moi qui l'ai, de toute façon. VandaVision, une série américaine de 9 épisodes, format sitcom, donc je le rappelle, sur Disney+, depuis le 15 janvier.
Souffle sur le pays très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit serveur central. Attraper le Bluetooth, ouais. Que ça vient nous faire de nos n'y comprendra rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutait la frousse. Et les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Monde nouveau par Feu Chatterton, extrait du troisième album de ce groupe parisien, album intitulé Palais d'Argile, qui sortira en mars. Et on l'a entendu sur des synthés qui sonnent comme hier, les Feu Chatterton chantent un demain plein de questions et d'incertitudes, mais avec une fausse insouciance musicale qui donne le diapason d'un espoir pas encore tout à fait perdu.
France Inter, une heure en série.
On a le temps d'un plateau télé gourmand et vous allez nous recommander vos petits coups de cœur. Chère Isabelle, vous nous invitez à redécouvrir la série Rectify qui est disponible sur MyCanal.
Oui, on a d'ailleurs un de nos auditeurs ou auditrices, on ne savait pas, qui s'appelait Dom et qui, il y a 15 jours...
Qui avait passé commande, absolument.
Avait passé commande et en toute raison, j'en avais bien l'intention... parce que pour moi, c'est une des plus belles séries de la décennie écoulée sur la famille et la rédemption, mais pas seulement. C'est l'histoire d'un homme, Daniel Holden, emprisonné à l'âge de 18 ans pour le meurtre de sa petite amie et qui en ressort 19 années plus tard, innocenté par des tests ADN, mais aussi annihilé, anesthésié, avec tout à réapprendre. Et pas seulement les portables, les DVD et les écrans plats. Les rapports aux autres, à sa mère, à sa sœur, à son beau-père et ses frères. Le rapport au monde, à la liberté, au temps, au vent. Et au soleil sur votre peau, au brouhaha des foules et au rire des enfants. De surcroît, dans un petit village de Géorgie dont la moitié des habitants continuent à croire en votre culpabilité. C'est une série qui est vue à travers les yeux calmes et noyés de Daniel, interprétée avec une présence translucide et une gentillesse pataude par Aden Young. C'est lent et contemplatif, à la fois doux et douloureux. On est dans la peau de ce grand bébé de 37 ans, rescapé de 19 ans de réclusion, avec pour seule compagnie les livres et la voix du prisonnier d'à côté dans une cellule d'à peine 6 mètres carrés. Et dès les premiers épisodes, on est happé par l'humanité, la lumière, les myriades de détails insignifiants qui accompagnent cette poignante balade sur la famille, la justice, le silence et l'impossible pardon.
Rectify donc sur MyCanal. Combien de saisons déjà? 4 ou 5?
4 saisons, 30 épisodes.
Cher Ava, c'est à votre tour. Merci Isabelle. Vous nous recommandez de découvrir Pretend It's a City.
Absolument, sur Netflix.
Well done, sur Netflix.
Well done. Scorsese fait parler New York à travers Fran Lebowitz, c'est le titre de l'article du 22 janvier dernier dans Le Monde sur cette série documentaire disponible donc sur Netflix, produite par Martin Scorsese et qui met donc en scène la satiriste féministe lesbienne américaine Fran Lebowitz dans un exercice de style absolument saisissant. On pense évidemment à Woody Allen, dont elle pourrait être la sœur spirituelle et mais pas que. C'est bavard, c'est drôle, c'est intelligent, c'est un témoignage unique et impertinent sur New York, ville de tous les fantasmes, ville immortalisée par la fiction et par Scorsese lui-même bien entendu, mais c'est aussi un portrait de Fran Lebowitz qui elle aussi est unique en son genre. Les gens dans la rue vous importunent-ils? Lui demande-t-on lors d'une conférence. Oui, répond-elle, cash, depuis la scène où elle se tient. Donc voilà, comme Woody Allen le dit à travers ses films, et avec le même débit, elle nous raconte la ville qu'elle a aimée, mais qui n'existe plus comme elle l'a aimée. Elle a en horreur la nouvelle technologie, les gens qui ont les yeux rivés sur leur smartphone. Elle déteste Times Square et les installations d'art moderne. Donc voilà, on adore entendre cette grincheuse se plaindre de tout et de rien. Les images sont superbes. On la voit déambuler dans New York, le tout sur une musique jazz. Et elle dit tout son amour de Charles Mingus, d'ailleurs. Donc voilà, c'est un vrai personnage, une machine à punchline, un esprit transgressif et libre. Il y a 7 épisodes de 30 minutes chacun. Vous m'en direz des nouvelles. Pretend It's a City sur Netflix, c'est une vraie pépite.
Merci beaucoup, chère Ava. Moi, j'ai une poignée de secondes pour vous recommander de découvrir une web-série d'animation signée Véronique Puybarré et Mathieu Dubois, qui est une adaptation des Mystères de Paris de Jeanne Sue. On avait évoqué ce roman lors du débat sur Paris Police 1900. Alors, ils ont repris les illustrations d'époque. Ils les ont animées de manière un tout petit peu lanterne magique. Donc, on est à la fois dans la révérence et dans la référence, sauf que ils l'ont adapté de façon très moderne, très drôle. Il y a une voix off qui commente ça avec énormément d'humour. 40 épisodes pour resserrer les 1200 pages quand même du roman, c'est pas mal. Et la voix off s'amuse évidemment, et ben des cliffhangers un peu béants dans lequel plonge Eugène Sue le lecteur, puis maintenant le téléspectateur. C'est extrêmement bien foutu, c'est extrêmement drôle. Il y a donc 40 épisodes, un épisode par jour jusqu'au 11 mars. Puis vous pourrez trouver l'intégralité de la série. Et le lien pour trouver cette série sera disponible sur le site de Une Heure en Série. Une Heure en Série qui est finie, les enfants. Oh. Et oui, je vous sens quand même au désespoir. Mais c'est comme ça. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci à vous, Avakaïn, Isabelle Danel, merci, et Benoît Lagan d'y avoir participé. Merci à vous toutes et vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé ou pas, je te promets, sur TF1, Your Honor sur Canal+, et Vandavision sur Disney+. La semaine prochaine, une émission spéciale Les Femmes et le Sexe avec Little Bird sur Starzplay et Libre sur Arte TV. Rendez-vous demain soir 20h avec Jérôme Garcin pour Un masque et la plume consacré à la littérature. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion dans quelques heures à 2h du matin. Il y a un site internet, vous pourrez trouver l'intégralité du programme ainsi que la playlist de cette émission. Nous envoyez un courrier. Cette émission a été réalisée comme chaque semaine par l'excellente Marie-Annick Rimbaud, la programmation musicale signée Muriel Pérez, préparé avec Amel Kaldi, et à la technique ce soir, le très sérifile Clément Berman.